Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans l'aire de jeu en lieu et place de Florian qui profite de ce dimanche matin. On lui souhaite un bon dimanche. Je suis Stan, mais je ne suis évidemment pas seul puisque l'irremplaçable Claire est à mes côtés, ainsi qu'Alain pour parler de prévention routière en ce début de période estivale. Bonjour Claire Honorodam, bonjour Alain.
Mais bonjour Stan.
Bonjour Stan, bonjour Claire, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour Alain, comment allez-vous ?
Bien.
Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'ère de jeu. Je suis ravie de partager ce moment avec vous, Stan.
Plaisir partagé.
Et puis comme vous l'a dit Stan, on va parler justement avant vos départs en vacances de prévention routière, tout ce qu'il ne faut pas oublier de prendre pour ne pas être embêté et puis tout ce qu'il faut réviser sur votre voiture. Et pour cela, on a le plaisir d'avoir avec nous ce matin le capitaine Alain Soudan, qui est le chef de la police de la circulation à la police neuchâteloise. Bienvenue dans l'ère de jeu. Les auditeurs vont pouvoir jouer avec nous pour gagner des cartes cadeaux. Alors, avant de commencer cette émission, vous êtes d'origine valaisanne, Alain ?
Oui.
Est-ce que vous avez toujours rêvé d'être dans la police ? Est-ce que c'était un rêve de petit garçon ou pas du tout ?
Alors non, vraiment pas, non. J'ai commencé comme mécanicien auto, donc j'ai fait un CFC de mécanicien auto. Je ne me voyais pas trop dans la police. Et après, effectivement, quand j'ai fait l'armée, j'ai commencé à aimer l'uniforme et puis je me suis dit pourquoi pas rentrer dans la police.
Et alors, dans la police de la circulation, c'est quoi exactement votre travail ?
Alors actuellement, je suis donc le chef de la police de la circulation dans le canton de Neuchâtel. J'ai principalement des gens qui travaillent dans la circulation, notamment l'éducation routière qui vont dans les écoles, les contrôles radars qu'on aime un petit peu moins quand on est sur la route, et puis deux groupes techniques, le groupe technique accident qui va intervenir quand il y a des accidents très graves, et puis un groupe technique véhicule qui va plutôt contrôler les véhicules et puis notamment les chauffeurs professionnels.
Capitaine Alain Soudan avec nous ce matin, ça nous fait bien plaisir. Vous êtes venu en tenue de travail, hein ?
Oui, je trouvais important de venir en uniforme, puisque c'est pour ça que vous m'avez fait venir. Donc, je me suis dit que c'était quand même mieux de venir en uniforme.
Exactement. Et c'est vrai qu'on
l'a rappelé aussi.
On ne s'imagine pas tout ce qu'il faut prévoir avant ses départs en vacances, hein, au point de vue de sécurité de la voiture, mais également pour le véhicule. Et ça commence bien évidemment par les pneus.
Oui, disons juste les pneus. Oui, effectivement. Donc, déjà contrôler l'état. Est-ce qu'au niveau de l'usure, ils sont en état ? On dit que c'est 1,6 mm le minimum, mais pour partir en vacances, si on fait un long trajet, c'est bien qu'il y ait plus de profil que ça.
Alors, on a une photo que les auditeurs découvriront cet après-midi sur notre site rtn.ch, sur la galerie photo. Et là, qu'est-ce que nous signale cette photo ?
Voilà, pour vous aider à contrôler le profil des pneumatiques, vous avez un petit témoin à l'intérieur des sillons qui vous permet de voir à quelle hauteur est l'usure et puis qui vous permet aussi de voir dans quel état sont vos pneumatiques.
Est-ce qu'il y a d'autres choses encore à vérifier sur les pneus ?
Alors la pression des pneus, c'est très important. Donc on a une pression, on va dire, dite normale quand on conduit un véhicule ou avec un conducteur et un petit peu de bagages. Et puis on trouve une étiquette sur le véhicule qui se trouve dans la portière côté conducteur avec les indications sur la pression normale et la pression quand on part en vacances. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le véhicule, plusieurs bagages, et puis c'est une pression plus importante pour éviter un sous-gonflage. Puis là, vous trouvez cette indication justement dans la portière au niveau des montants. On peut aussi trouver sur la trappe de carburant, des fois, c'est à l'intérieur de la trappe à carburant qu'on peut avoir cette étiquette qui nous donne les indications sur la pression des pneumatiques.
Personnellement, je n'ai jamais fait gaffe. Je vais contrôler si j'ai bien ça dans ma voiture après l'émission.
Je pense que c'est obligatoire. Et puis, on rappelle à nos auditrices et nos auditeurs qu'en plus des normes que le constructeur impose pour une bonne pression des pneus, c'est aussi la quantité de choses qu'on transporte, puisque la bonne pression dépend de la charge exacte du véhicule. Ce qui fait que, par exemple, si la pression est à 2 bars normalement, il y a une indication qui vous précise que si vous avez beaucoup de bagages et puis 4 personnes dans le véhicule, vous devriez être à 2-2 pour assurer une meilleure adhérence sur la route sous votre autorité.
Exactement, c'est juste.
Eh bien, je vous propose de passer maintenant à notre défi photo. Et oui, vous le savez, chaque dimanche, on vous propose, chers auditeurs, un défi. Et ce matin, eh bien, le défi photo, On l'a dit, hein, il a des origines valaisannes, notre invité. Alors, le thème de notre défi, ce sont les photos, bien évidemment, sur le Valais. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous envoie sur ce thème-là?
Alors, faites-moi rêver, envoyez-moi la plus belle photo que vous avez sur le Valais.
Oui, alors ça peut être des montagnes, ça peut être aussi à manger ou à boire.
Mais alors, volontiers.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
Retour vers vous avec Alain, notre invité, qui nous fait la promotion de la prévention routière dans cette période estivale où on continue à parler notamment de l'état des pneumatiques, Claire.
Exactement, et c'est vrai que c'est très très important hein, que d'avoir des pneus qui sont bons pour partir en vacances, enfin pour tout le temps finalement. Les gens aiment bien maintenant garder leurs pneus d'hiver, les user jusqu'en été.
Alors on peut comprendre financièrement hein, de terminer en fait ces pneus d'hiver ou de les user jusqu'au bout pendant l'été, mais au niveau de la sécurité routière, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que déjà au niveau du freinage avec des pneus d'hiver en été, ben la distance de freinage est beaucoup plus longue, la tenue de route est moins bonne. Donc c'est vraiment conseillé de changer, d'avoir des pneus de saison avec la saison concernée.
Moi, je fais, par exemple, j'habite à 1000 mètres d'altitude, comme beaucoup de personnes qui habitent dans le canton. Et c'est vrai que la gestion des pneus est parfois compliquée et un peu chère. Donc, c'est vrai que là, par exemple, je suis obligé d'avouer devant nos auditrices et nos auditeurs que je suis encore chaussé de pneus neige par flémardise, on va dire.
Alors, c'est vraiment déconseillé. Puis alors, en plus, quand on part en vacances puis qu'on fait des longs trajets, là, c'est vraiment très, très déconseillé d'avoir encore des pneus d'hiver pour des longs trajets en été.
Et sur la photo qui est derrière nous, on voit justement un pneu éclaté.
Oui, alors c'est un pneu en sous-gonflage, en fait. Il n'était pas assez gonflé. Il a surchauffé et au bout d'un moment, il a vraiment éclaté. Donc, la pression des pneus, vraiment, il faut la contrôler. C'est important avant de faire un grand trajet. Et même... En tout temps, il faudrait le faire.
Alors, moi, je ne suis pas du tout très mécanicienne. Tout ce qui est... Je ne connais pas du tout, je l'avoue, hein, chers auditeurs. Alors, si comme moi, j'aimerais faire contrôler la pression de mes pneus, où est-ce que je peux m'adresser?
Alors, il faut vous adresser dans votre garage. Il faut aller voir votre garagiste pour faire un contrôle. Un contrôle avant le départ en vacances me paraît très important. Et puis, un contrôle durant l'année, c'est aussi important de le faire. Surtout au moment de changer vos pneus. Principalement, le garage, de toute manière, va faire ce contrôle au moment où vous changez de pneus. Puis peut-être encore une fois durant l'année.
Alors, il y a aussi les stations-service hein, où on peut faire soi-même le contrôle.
Ah oui, là, vous pouvez faire vos contrôles. Donc, effectivement, contrôler la pression. Mais si vous n'êtes pas sûr au niveau de savoir ce que vous devez mettre comme pression, c'est peut-être bien de demander à un spécialiste.
Oui, ou alors s'il y a la colonne d'à côté, il y a quelqu'un qui peut nous aider. Je crois que je vais essayer cette tactique-là.
Essayez avec un policier, peut-être ça marche.
Ah, peut-être.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Retour vers vous, Claire et Alain. Après avoir parlé de la pression des pneus à contrôler et à surveiller comme le lait sur le feu, on va parler de signalisation extérieure avec les petites diodes oranges, les clignotants.
Oui, et puis les phares également, hein, tout ce qui est éclairage sur la voiture. Ça paraît un petit peu comme ça anodin, mais finalement, ça a toute son importance. Et on va voir, on fait le tour de cette question avec vous, Alain Soudan. On rappelle que vous êtes le chef de la police de la circulation à la police de Neuchâtel. Vous êtes capitaine. Qu'est-ce qu'il faut contrôler maintenant quand on part en vacances au point de vue de l'éclairage du véhicule?
Alors faire un contrôle de l'éclairage, c'est important déjà pour votre visibilité, hein, pour voir avec l'éclairage des feux avant, mais aussi pour les autres véhicules qui puissent voir les informations sur le véhicule, si on est en train de freiner, de reculer ou de vouloir prendre une direction. Donc c'est important de faire ce contrôle. Le faire tout seul, c'est un peu compliqué. Le faire à deux, c'est toujours mieux. Donc, vous avez la possibilité de demander à quelqu'un pour contrôler vos feux avant, s'il y a une défectuosité, pour pouvoir changer assez rapidement l'ampoule avant de partir. Et puis, les feux arrière, bien sûr, avec les feux de recul, les feux de stop, quand on freine, pour que les véhicules qui arrivent derrière ont l'indication qu'il y a ce freinage. Et puis aussi, les indicateurs de direction, alors signophiles ou clignotants, selon les régions, comme on l'appelle, aussi contrôler que tout fonctionne pour que les autres usagers de la route puissent bien voir les indications qu'on donne.
Et puis, alors, moi, une petite parenthèse, je ne sais pas si vous, messieurs, vous êtes la même chose que moi, mais moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les gens oublient d'enlever leur feu de brouillard, anti-brouillard. Et quand vous êtes derrière, mais c'est juste insupportable.
Ça m'arrive assez régulièrement, effectivement. Je suis
de
assez
l'oublier.
Sensible. Non,
ah,
non, j'y suis super vigilant parce que, effectivement, ça capte complètement l'attention et ça aveugle. Hein. C'est d'une puissance phénoménale. Bon, c'est étudié pour être visible dans le brouillard, mais en pleine journée, ça perturbe, effectivement. Ouais.
C'est effectivement des feux de brouillard, donc ils sont beaucoup plus forts que les autres et puis ils peuvent effectivement éblouir un petit peu. Donc normalement, il y a un témoin sur le véhicule qui indique que le phare à brouillard est allumé. On doit l'enlever au niveau de la loi et c'est indiqué de l'enlever pour éviter effectivement de déranger les autres usagers de la route.
Bah, je reviens vers vous, j'ai une question sur les clignotants puisque le SCAN nous avait envoyé un petit papier pour nous réexpliquer les règles de comment on utilise les clignotants dans les ronds-points parce que c'est toujours ambigu. Mmh. Si vous avez la connaissance exacte du code de circulation, est-ce qu'il faudrait l'activer que quand on sort ou tant qu'on ne sort pas, on le met dans le sens opposé dans lequel on roule? C'est un peu complexe parfois.
Alors c'est très complexe dans les giratoires. Ce qui est important, c'est indiquer aux autres usagers ce qu'on veut faire. Donc effectivement, indiquer la sortie, c'est important pour que les autres usagers puissent comprendre qu'on va sortir du giratoire. Après, si on veut rester dans le giratoire, normalement, on devrait indiquer qu'on reste dans le giratoire, qu'on continue à tourner.
Donc on laisse à gauche, quoi, on laisse clignoter.
Nous, au niveau police, mon conseil, c'est surtout d'indiquer la sortie du giratoire. C'est le plus important.
D'accord.
Et c'est amendable, hein, si on oublie de le signaler.
Oui, alors beaucoup de choses sont amendables. Après, il faut faire preuve de bon sens. Est-ce que la faute est réellement... est-ce qu'on veut faire une faute ou pas? En tant que police, on devrait avoir le bon sens puis dire que si c'est pas une faute réelle, on n'est pas obligé d'amender.
On va écouter une chanson que vous avez choisie, Alain Sedan. En plus, elle tombe à pic hein, après avoir parlé des éclairages de la voiture. Quelle chanson vous avez choisie et pourquoi?
Alors, j'ai choisi Allumer le feu de Johnny Hallyday parce que je trouvais que ça allait bien avec l'éclairage des véhicules.
Et puis, c'est un chanteur que vous appréciez?
Oui, j'aime bien beaucoup Johnny Hallyday.
Jusqu'à midi, l'heure de jeu.
On continue cette émission spéciale sur la prévention routière et les soins à prévoir autour du véhicule qui va vous transporter jusqu'en vacances avec Claire et Alain et une invitée au téléphone.
Oui, et on a la chance d'avoir avec nous le capitaine Alain Sedan. J'aime bien ce mot, ça me fait penser au film Capitaine ou mon capitaine.
Le cercle des poètes disparus.
Voilà, exactement. Et puis ça me fait penser, alors moi j'adore, je suis une fan du Capitaine Marlowe, série policière avec Corinne. Est-ce que vous aimez un petit peu les séries télé? Est-ce que vous regardez Alain Sedan?
Alors, Capitaine Marlowe, oui, j'aime bien. C'est vraiment une série que j'adore.
Oui, et puis elle est tellement nature. On a aussi une Corinne avec nous qui est tout aussi sympathique. Bonjour Corinne, comment allez-vous?
Alors, ravie de vous entendre et puis d'entendre tout, ben de participer avec vous là pour à cette jolie, sympathique émission.
Est-ce que vous auriez une question à poser à notre invité avant qu'on joue avec vous?
Ben justement, j'ai réfléchi là et puis je voulais poser question à Alain là au capitaine, pas Marlowe mais au capitaine
Sedan.
Savoir justement par rapport au vélo électrique et puis aux trottinettes électriques qui circulent en ville dans la zone piétonne ou comme ça, ou quand je vais me balader au bord du lac et puis qu'il y a un panneau qui indique que c'est interdit aux vélos et puis qu'il y a les vélos qui se promènent, enfin qui circulent alors qu'il y a des piétons qui sont là. Et puis c'est vrai que souvent on doit éviter les vélos, les trottinettes électriques de peur d'avoir un accident, enfin de se faire foncer dedans. Donc je voulais voir avec le monsieur si ce qu'il en pensait.
Alors je peux vous répondre. Donc les e-trottinettes ou les vélos électriques ne sont pas autorisés sur les aires réservées aux piétons, tout simplement.
D'accord.
Mais c'est vrai que de plus en plus, les trottinettes électriques, excusez-moi du terme, mais ils roulent un petit peu à la one again, hein?
Alors oui, c'est un nouveau véhicule qu'on a sur nos routes qui prend de plus en plus d'ampleur, puisqu'il y en a de plus en plus. Puis effectivement, on fait de temps à autre des préventions pour leur indiquer où ils doivent aller, mais pour aussi indiquer aux automobilistes qu'effectivement, ces e-trottinettes doivent être sur la chaussée.
Voilà, donc si vous avez des trottinettes électriques ou même un vélo électrique, hein, faites attention. Et si tout le monde respecte les conditions et les lois, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez jouer avec nous
voilà.
Et voici votre jeu, ma chère Corinne.
Ben voilà.
L'heure de jeu, le blind test.
Alors, le blind test, ce sont toutes des chansons qui parlent de la route. À vous de me donner en tout cas deux bonnes réponses pour gagner une carte cadeau. Il s'agit d'un bon pour aller manger une pizza chez Pizza Fun à Neuchâtel. Miam, miam, ça met l'eau à la bouche. Hein.
Oui, voilà, mais alors je ne sais pas si je vais être performante au niveau des chansons sur les routes. Hein.
Mais, sur la route, mais écoutez, on verra. Laissez-vous. voici la première question qui se rapporte donc au premier titre que nous allons écouter. Quel chanteur est l'interprète de ce titre qui est sorti en 2014 ?
Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route,
sur ma route.
Oui, bah évidemment, mais ce n'est pas le chanteur. Alors, il est jeune, il est moins jeune, enfin voilà. Donc, je connais la chanson parfaitement.
Oui, il a fait partie de Section d'Assaut.
Oh là là.
Vous ne voyez
alors,
pas.
Je réfléchis, non. Je réfléchis encore.
Allez,
section
on passe.
D'assaut.
On passe à la deuxième. Quel est le titre de cette chanson ?
C'est dans le tennis.
Le disjockey sur un
La route de Memphis.
Oui, vous avez reconnu bien sûr Eddie Mitchell. Aïe, aïe, aïe.
Exactement.
On croise les doigts pour vous. Hein. Les garçons, oui. Si vous voulez aider Corinne, c'est vraiment...
C'est volontiers.
C'est sur cette chanson que tout va se jouer. À quel chanteur doit-on ce titre sorti en 2003 ?
Percer la vie sans billet de train sur la route. Sur la route.
Raphaël.
Ouais, bravo.
Oui, bravo.
Super, j'allais vous donner encore comme indice qu'il interprète cette chanson avec Jean-Louis Aubert.
Aubert, oui.
Et puis qu'il nous a aussi emmené dans une caravane, hein, sa chanson Caravane.
La chanson Caravane.
Ça voilà. Fait... Exactement. Eh bien, bravo, car...
Alors, je suis contente, je suis ravie, parce que c'est vrai que ce n'était pas évident. Et puis voilà, donc, c'est une belle journée qui se prépare.
Et le chanteur qui vous manquait, c'était Black M.
Ah, Black M, oui,
tout à fait. Qui est venu dernièrement, l'année passée, je crois, à Neuchâtel.
Oui, alors, je n'ai pas vu Black M, il n'était pas au Festineuche.
Non, c'était à la patinoire, sauf erreur.
C'était
avant Noël, il me semble, hein, quelque chose comme ça.
J'ai vu Raphaël au Festineuche, j'ai vu d'autres chanteurs à Festineuche ou ailleurs d'ailleurs, mais non, j'ai pas vu Black M.
D'accord. Bon, en tout cas, on vous félicite, Corinne. Merci pour votre fidélité à l'ère de jeu. Et puis, vous remportez donc ce bon pour aller manger une pizza chez Pizza Fun à Neuchâtel. Et puis, ben, on va écouter Black M avec sa chanson Sur ma route. Belle suite de dimanche. Merci Corinne.
Bon été à tous et à toutes. Bonne journée. Bye bye. Merci. Bisous. Ciao.
10h, midi. Envie de prendre l'air. L'air de jeu.
Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui.
Vous écoutiez Black M avec le titre « Sur ma route ». C'est une chanson que Claire a choisie dans le cadre de la thématique de l'air de jeu de ce matin qui évoque les questions de prévention routière en compagnie de Alain Sodan qui est directeur.
Aussi, pourquoi pas.
Capitaine dans l'air de jeu avec un défi puisqu'il a des origines valaisannes. On en profite pour vous rappeler le défi qui est en cours ce matin, le concours photo autour du Valais. Donc on attend de vous des photos les plus belles, les plus emblématiques, soit de la géographie du Valais, mais aussi de sa gastronomie culinaire. Et aussi, on m'a tiré l'oreille tout à l'heure parce que je l'ai oublié, mais aussi des boissons. Donc on attend vos photos sur 079 809 20 20.
Et on continue avec vous, capitaine Alain Sodan, de parler de ce qu'il faut faire attention, hein, de la prévention routière. Alors, ce qui est très important également, c'est la visibilité du véhicule.
Oui, la visibilité, donc au niveau du vitrage des véhicules, surtout le pare-brise et puis les vitres latérales avant. De les nettoyer une fois avec du produit pour les vitres, c'est important, extérieur mais aussi intérieur. On peut aussi avoir de la poussière et des graisses à l'intérieur. Donc de le faire une fois avant un long voyage, ça vaut vraiment la peine.
Et puis de contrôler, j'imagine, les essuie-glaces.
Alors, les essuie-glaces, oui. Les essuie-glaces prennent aussi des poussières hautes. Donc, de temps à autre, de passer un petit coup avec un mouchoir en papier sur l'essuie-glace pour redonner un petit peu d'efficacité à vos essuie-glaces, c'est important. Contrôler aussi l'état. Les essuie-glaces s'usent et puis des fois, il faut éventuellement les changer si on voit qu'ils n'ont plus une bonne efficacité.
Et quand on est justement à cette hauteur du véhicule, il y a aussi les rétroviseurs. Là aussi, il faut les régler pour qu'on puisse bien voir.
Alors, le réglage, normalement, il est fait avec le conducteur. Bien avant de faire un long voyage, il devrait être à la première utilisation du véhicule réglé. Mais aussi, la propreté des rétroviseurs pour avoir une bonne efficacité puis avoir une bonne visibilité. Donc, de les nettoyer de temps à autre, ça vaut aussi la peine.
Il y a aussi un thème que je trouve important. Là, on va plus s'adresser à nos amis motards et aux personnes qui conduisent des deux roues. À mon avis, je trouve qu'on voit trop de personnes circuler à moto avec des tongs ou en sandalettes, en short, en marcelle. C'est inimaginable parce que si on tombe, bonjour l'eczéma du bitume, comme on dit.
Alors oui, l'équipement des motards, on en a parlé à notre journée motard, je crois que vous en rappelez grâce à notre voiture tonneau.
Oui. Ah, si on trouve le son, il faut qu'on vous le fasse écouter.
L'équipement, effectivement, pour les motards est très important. Pourquoi ? Parce que l'équipement que porte le motard, c'est sa carrosserie. Donc, en cas de chute, il n'a que ça pour se protéger. Donc, on doit effectivement s'équiper correctement pour être sur une moto. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment conseillé de s'équiper avec une veste moto, des pantalons qui sont adaptés, des bottes, des gants. Et bien sûr, le casque, lui, est obligatoire.
Comme ça, on évite aussi vraiment des accidents qui pourraient finalement être assez sérieux. Et là, on est de même, j'imagine, pour les cyclistes. Des fois, on voit des cyclistes rouler sans casque. Là aussi, c'est quand même dangereux, non ?
Alors oui. Alors, pour les cyclistes, il y a les vélos électriques où le casque est obligatoire et tous les autres, ce n'est pas obligatoire. Mais bien sûr, c'est conseillé maintenant. Je crois que quand même une bonne partie des personnes qui circulent en vélo mettent un casque. Et puis maintenant, c'est un peu comme au ski au début. Personne ne mettait le casque. Maintenant, tout le monde le met. Et on aimerait bien arriver à ça avec ceux qui roulent en vélo pour que tout le monde mette le casque.
Est-ce que c'est amendable ou pas du tout ?
Alors pour les véhicules qui sont obligatoires avec le casque, oui. Ceux qui sont conseillés, ben non, on peut pas donner d'amende à quelqu'un qui met pas le casque sur un vélo qui n'est pas électrique.
C'est comme pour la tenue vestimentaire d'un motard. Là non plus, on ne peut pas mettre d'amende si la personne roule en marcelle.
Oui, exactement. Donc en Suisse, seul le casque est obligatoire. En France, vous avez les gants et le casque, mais la personne pourrait aller avec son casque et ses gants et rien d'autre. Bon, on ne conseille pas ça. Vraiment, il faut vraiment être très équipé pour aller en moto. C'est la sécurité aussi du motard.
11h07, l'heure de reprendre l'air de jeu en compagnie de Claire et son invité du jour, Alain Saudan, pour parler de prévention routière en période estivale, puisque toutes et tous, on a sans doute derrière la tête l'idée de prendre son véhicule pour s'échapper un petit peu. Donc, c'est ce dont on va parler pendant l'heure qui suit, avec un défi photo, on vous le rappelle, sur le choix d'Alain, sur son thème de prédilection, puisque sa région d'origine, c'est le Valais. Il travaille à Neuchâtel, mais il est valaisan de cœur, visiblement, et il vous invite à vous envoyer vos plus belles photos autour de ce thème du Valais par WhatsApp au 079 809 2020. D'ici la fin de l'émission, on fera une sélection des photos qui nous semblent les plus marquantes et c'est Alain qui choisira celle qui aura la chance de gagner, sachant qu'on a dit que c'était donc la géographie, mais aussi ça peut être la gastronomie ou les boissons. Cette fois-ci, je n'oublie pas, retour vers vous Claire et Alain pour cette journée spéciale prévention routière.
Et oui, un thème qui est vraiment d'actualité avec tous les départs en vacances qui sont prévus ces prochains jours. Alors, on a parlé des pneus, on a parlé de l'éclairage, de la visibilité, des motards également et des deux roues. Il y a aussi le contrôle des niveaux. Ça aussi, pour la jante féminine, en tout cas pour moi, c'est un truc qui me dépasse un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour ces contrôles-là ?
Alors oui, alors ça se trouve sous le capot moteur où on a plusieurs choses à contrôler. Déjà le niveau d'huile. Donc vous avez une jauge d'huile qu'il faut retirer. D'abord essuyer avec un papier, puis après la remettre pour contrôler. Le véhicule doit être bien à plat pour pouvoir faire ce contrôle. Le niveau d'huile doit être entre le minimum et le maximum. En tout cas, pas dépasser ni le minimum ni le maximum.
Est-ce qu'il faut aussi contrôler le produit pour laver les vitres? Alors, ce qu'on appelle communément le pipi glace.
Alors oui, également, il faut aussi contrôler. Donc là, c'est simplement remplir le récipient pour qu'il soit plein. Pourquoi? Parce que même en été, même si on n'a pas trop de pluie et autres, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir sur le pare-brise, de la poussière, du pollen, voire des moucherons. Et puis si on n'a plus de liquide, ça devient vite un pare-brise qui n'est plus très visible. Puis après, avec le manque de visibilité, ben voilà, le risque d'accident. Donc c'est important d'avoir aussi ce liquide à niveau.
Et puis ça permet aussi, petite expérience, petit truc que je donne, si quelqu'un vous suit d'un peu trop près et qui ne respecte pas les distances de sécurité, un petit coup de pipi glace va lui démontrer assez rapidement qu'il est trop près, puisqu'il sera obligé de mettre son essuie-glace lui aussi, ça passe par-dessus le véhicule avec la vitesse. C'est un bon moyen d'envoyer des signaux cordiaux, mais efficaces.
Je ne connaissais pas cette technique, peut-être pas à faire avec un moteur.
Sans doute pas avec un moteur.
C'est mieux pas. Mais là aussi, la visière du motard doit aussi être clean.
Oui, bien sûr. Alors là, c'est un peu plus différent. Ils n'ont pas d'essuie-glace. Donc là, c'est plutôt s'arrêter de temps à autre, puis nettoyer sa visière, surtout s'il y a beaucoup de moucherons. Il y a encore deux choses qu'il faut contrôler. C'est le niveau d'eau, du refroidissement. Donc il y a aussi une petite limite minimum, maximum. Donc contrôler ça aussi avant un grand départ, c'est important de contrôler. Et puis aussi le niveau du liquide de frein, qui peut donner une indication. C'est pas parce que le liquide n'est pas au maximum qu'il y a un défaut technique, mais c'est peut-être une indication aussi au niveau des plaquettes de frein, puisque avec l'usure des plaquettes de frein, le liquide de frein descend un petit peu. Puis ça peut donner une indication qu'il faut peut-être contrôler ses freins avant de partir.
J'imagine qu'avec les voitures qui sont tellement performantes maintenant, hein, tout est électronique, ça nous signale quand il y a un manque de quelque chose.
Alors oui, maintenant sur tous les véhicules modernes, on a effectivement un petit signal qui va se mettre au tableau de bord pour indiquer qu'il manque tel et tel liquide.
J'ai même mon véhicule qui est pourtant roumain et plutôt réputé low cost, qui m'indique la pression des pneus. C'est aussi possible qu'un véhicule contrôle la pression des pneus directement?
Oui, alors ça c'est aussi le problème qu'on peut avoir lorsqu'on change de pneus par rapport aux saisons, bien faire recontrôler ça, parce que ça peut indiquer un manque de pression alors que c'est pas réellement ça. Okay. Donc, des fois, il faut le remettre à niveau, et des fois même d'aller chez son garagiste pour faire remettre cette indication juste. Mais effectivement, il y a des véhicules qui indiquent la pression des pneus aussi.
Donc c'est moins fiable que pour les niveaux, mais on peut quand même, ça permet de faire un petit reminder sur ce qu'on abordait en première partie de l'émission sur changer ses pneus de saison. Quoi.
C'est toujours des choses électroniques qui sont indiquées, donc le regard de l'humain est quand même important, même parce qu'il peut y avoir des défectuosités électroniques. Donc quand même faire un petit contrôle avec le regard humain, c'est quand même important de le faire.
Voilà, un bon petit check-up, c'est pas mal. Hein,
oui.
Jusqu'à midi, l'air de jeu.
L'air de jeu avec un menu chargé autour de la prévention routière et des conditions à respecter quand on est automobiliste pour s'assurer d'une sécurité en tout temps cette période de vacances, avec comme invité Alain Sodan qui est accueilli par Claire aujourd'hui pour évoquer toutes ces questions.
Et oui, on va maintenant s'intéresser, Alain, au conducteur. Alors c'est vrai que pour faire un long voyage, il faut quand même être bien réveillé, il faut du repos, mais qu'est-ce qu'il faut encore ?
Pour le conducteur, effectivement, si possible, c'est dormir 7 à 8 heures avant de prendre le volant, donc dormir la veille. Si c'est un départ qui est prévu dans la nuit, ben, essayer de faire un sommeil avant de partir, avant de prendre le volant. La fatigue est une des causes d'accidents les plus récentes, justement, quand on est en été, il y a de la chaleur. Donc là, effectivement, avoir du repos. Et puis, bien sûr, l'aptitude à la conduite, éviter tout ce qui est alcool avant un départ, effectivement, c'est important.
Et là, justement, on a une photo que vous nous avez fait parvenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Donc, c'est un accident dû à quoi?
Effectivement, dû à la fatigue. Donc, un automobiliste qui perd la maîtrise de son véhicule parce qu'il a un manque d'attention par rapport à la fatigue. Et puis, ben voilà, ça peut être des conséquences dramatiques suite à cet accident.
Ben, pendant le trajet, vous conseillez de faire des étapes, de s'arrêter? Peut-être que quand on a des enfants, c'est bien de pouvoir s'arrêter un petit peu.
Alors, chaque personne est différente par rapport à la conduite, mais effectivement, on conseille toutes les 2 ou 3 heures de faire une pause. Ça permet aussi de se dégourdir, de sortir aussi les enfants ou éventuellement un animal, s'il y a un chien dans le véhicule, de le sortir. Donc, faire quelques pauses durant le trajet, c'est toujours important pour effectivement garder l'attention sur la circulation et puis éviter tout risque d'accident.
Les bagages maintenant, parce que c'est vrai qu'on voit des gens partir en vacances avec sur le toit des porte-bagages assez hallucinants. ou des fois si on est derrière une voiture, ben le coffre, c'est tout s'il touche pas par terre. Là aussi, il y a des mesures à prendre et certaines consignes à respecter, j'imagine.
Alors oui, les bagages, quand on part en vacances, on a envie de prendre toute la maison pour avoir le même confort en vacances qu'à la maison. On peut prendre beaucoup de choses, mais il faut vraiment, au niveau de comment on met ses bagages dans le véhicule, c'est important. Mettre d'abord dans le coffre tout ce qui est lourd le plus bas possible pour garder un équilibre du véhicule. Et puis charger les bagages en dessus. Si possible, garder une visibilité arrière. C'est toujours important, surtout dans les longs trajets avec les trajets sur l'autoroute, d'avoir la vitre arrière libre, qu'on puisse voir ce qui se passe derrière. C'est quelque chose de très important.
Et comme hein, vous l'avez souligné tout à l'heure, Stan, c'est vrai que si on charge trop sa voiture, eh bien, les pneus ne vont pas supporter.
Voilà, c'est pour ça qu'il faut effectivement contrôler la pression, puis mettre un petit peu plus de pression avec, quand on a plusieurs passagers et puis des bagages dans le véhicule. Ce qui est aussi important, sur la plage arrière, ne mettez pas une bouteille ou quelque chose, parce que si on a un coup de frein ou autre, cette bouteille va bien sûr percuter peut-être un passager, et puis avec le freinage, ben la petite bouteille de 1 kilo va passer plusieurs dizaines de kilos, puis ça peut vraiment faire des blessures. Donc ne mettez rien sur la plage arrière. Tout ce qui est dans le véhicule doit être arrimé. On l'a vu quand on fait un tonneau, tout gicle et tout nous arrive dessus. Donc effectivement, il faut bien arrimer les choses dans le véhicule.
C'est aussi une des choses qu'il faudrait peut-être préciser, c'est que chaque véhicule a une capacité de charge maximum et que là aussi, si vous roulez dans une voiture pleine de lingots d'or, la police pourra vous amender, non pas pour fraude fiscale, mais pour surcharge du véhicule, on est d'accord.
On va déjà contrôler la provenance des lingots d'or. Mais effectivement, le poids du véhicule est important, il est indiqué sur la carte grise, donc il ne faut pas dépasser ça. Après, si on n'a pas assez de place dans le coffre, il y a aussi possibilité de mettre sur le toit, avec un coffre de toit, comme on l'appelle, mais là aussi, attention à ne pas dépasser les poids qui sont indiqués sur la carte grise. Il y a des poids qui sont indiqués pour le poids qu'on peut mettre sur le toit. Mais on peut aussi mettre du matériel aussi sur le toit. C'est aussi une possibilité si on n'a pas assez de place dans le véhicule.
10h, midi, envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Toujours en compagnie d'Alain Sodan, en charge de la sécurité routière dans la police neuchâteloise, puisqu'il est neuchâtelois et de cœur et de papier, on va dire, et Claire Chapatte, qui est aussi neuchâteloise, je crois, de cœur et de papier. Hein.
Oui, alors de cœur, bien sûr, et oui, mais mes origines sont jurassiennes. Je suis une jurassienne. Et oui.
À Joulotte.
À Joulotte, exactement. Okay. Oui. Et puis nous avons avec nous Isabelle. Bonjour Isabelle, comment allez-vous ?
Bonjour, écoutez, je vais bien, je suis contente de vous avoir.
Eh bien nous, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Et vous, ce sont quoi vos origines ?
Alors moi, je suis d'origine vaudoise, mais j'ai toujours vécu dans le canton de Neuchâtel.
D'accord. Est-ce que vous aimez le Valais ? Alors attention à ce que vous allez dire, hein, parce que notre invité, le capitaine Alain Sodan, est originaire du Valais.
Oui, alors on adore le Valais. Mon fils est installé en Valais depuis quelques mois maintenant, donc on profite un petit peu de faire des virées plus régulièrement maintenant. Et oui, c'est un très beau pays. Ouais.
Il est où en Valais ?
Alors, c'est à l'entrée du Valais, c'est à Colombey-Murat. Donc, c'est pas très très loin. Après, je connais la Foulie, je connais d'autres endroits, mais il y a des très belles choses, des très bonnes choses aussi.
D'accord. Est-ce que vous je saute du coq à l'âne, mais est-ce que vous conduisez, Isabelle ?
Oui.
Et vous êtes une conductrice comment ? Est-ce que vous vous énervez au volant ou vous êtes plutôt cool ?
Comment vous dire ?
Joker.
Joker, Emma. Non, je m'énerve. Oui, je m'énerve pas, mais c'est vrai qu'il y a, je trouve qu'il y a passablement de gens irrespectueux. Et ça m'énerve assez facilement.
Oui, alors tout à fait, je suis d'accord avec vous. Bon, je ne voudrais pas faire ma mauvaise langue, mais je trouve que maintenant, depuis que les piétons ont la priorité, ils arrivent à un passage pour piétons, ils ne regardent plus. La moitié du temps, les jeunes sont sur des natelles ou ont des casques sur les oreilles et hop, on traverse. Alors, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alain, mais moi, ça me titille un petit peu, cette histoire-là.
Pour nous, ce qui est important, effectivement, c'est la tolérance. La tolérance sur la route, c'est dommage qu'il n'y en a pas assez. Faire attention aux autres usagers et puis avoir de la tolérance, c'est ce qui serait le mieux. C'est ce qu'on essaye d'enseigner le plus, mais c'est assez compliqué à faire passer.
Mmh. Ou alors, quand vous avez des personnes qui ont de la peine à marcher et c'est rouge pour les piétons et ils traversent. Alors, une fois, j'avais fait la remarque à une personne et on m'a envoyé balader. Voilà. Et vous, Stan, vous êtes un conducteur comment ?
Ça dépend des jours, je dois dire.
Ça dépend de l'humeur.
Ça dépend de l'humeur. Mais j'essaie de me calmer. Il y a une fois où j'étais fâché, je m'étais tapé 7 heures de bouchon dans la remontée entre Marseille et Lyon, où ça n'avançait pas du tout. Et à un moment, l'autoroute s'éclaircit. Je me suis fait. Je commençais à doubler sur la troisième voie et il y a une 205 verte, je m'en souviens encore, qui est arrivée. Je pense qu'il devait être à 180 km/h. Qui me faisait des appels de phare alors que j'étais en train de doubler péniblement. Je me suis rabattu sur la file du milieu, puis quand il est passé, je lui ai tiré la langue. Mauvaise idée. Alors je vous déconseille de même tirer la langue. Il a freiné devant moi, ça a duré pendant 600 mètres, j'ai cru que j'allais mourir, donc ça m'a servi de leçon à tout jamais. Donc maintenant, je ne demande plus d'hostilité, à part le fameux pipi glace quand on me colle de trop près, mais sinon je reste zen en toute situation, j'ai trop peur de me faire casser la tête.
Voilà, bon, vous avez appris plein de choses sur nous, on ne va pas demander à Alain quel genre de conducteur il est.
Non, par contre, j'ai une question d'un auditeur pour Alain, puisqu'il y a Olivier qui nous a écrit sur WhatsApp et qui nous demande pourquoi un nombre considérable d'automobilistes, lorsqu'ils empruntent un tunnel, n'ont pas les feux arrière allumés. Je sais que maintenant, les feux de position supplémentaires à l'avant sont obligatoires. Est-ce que c'est lié ?
Alors, oui, c'est lié, puisque maintenant, c'est les feux diurnes qui sont obligatoires à l'avant et pas à l'arrière. Donc, souvent, des véhicules ont les feux à l'avant, puisque c'est obligatoire, puis ils oublient de passer en mode...
Phare non automatique, mais voilà. Allumer vraiment les phares qui impactent à la fois l'avant tunnels, du véhicule et l'arrière.
Ouais. Et du coup, l'arrière n'est pas éclairé.
Donc, vous conseillez plutôt de ne pas se fier uniquement sur le système de détection automatique qu'il y a sur la plupart des véhicules et qui allume que les feux avant, mais vraiment de passer en feu de croisement.
Voilà. Tous les véhicules modernes, maintenant, ça passe automatiquement. Là, il n'y a pas de souci, mais pour les plus anciens, effectivement, il faut plutôt se fier à l'humain qu'au véhicule.
Ah oui, ok.
Eh bien, on va jouer avec vous, ma chère Isabelle. J'espère que vous avez pris note de tous ces bons conseils.
Oui, bien sûr.
Allez, on joue.
L'air de jeu, des paroles, une chanson.
Je vais vous lire les paroles d'une chanson. À vous de m'en donner le titre. C'est en duo, un gros succès de l'année 1988. Une chanson qui est extraite de l'album de ce duo qui s'intitule « Cœur de gosse ». Est-ce que vous êtes prête ?
Oui.
T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi, pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu...
Ah, c'est le Béda, là.
C'est quoi le titre de la chanson ? Oui. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur... Oui, ben voyez quand je chante, ça va tout de suite mieux.
La carrière de Claire est lancée.
Oui, voilà, effectivement. Est-ce que tu viens pour les vacances ? C'est bien sûr David et Jonathan. Hein, voilà. Ils ont cartonné avec ce titre estival en 1988. Eh bien, bravo, ma chère Isabelle. Vous remportez une carte cadeau de 20 francs chez Landy. On vous souhaite une belle suite de journée. Et puis, ben,
merci beaucoup.
Mais de rien, avec plaisir. Et puis, on va se plonger dans ce souvenir discographique de la carrière de David et Jonathan. Au revoir et bonnes vacances, Isabelle.
Merci, bonnes vacances à tous. Merci, au revoir.
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances ?
10h, midi. Envie de prendre l'air ? L'air de jeu.
Pour continuer à évoquer les questions de sécurité routière, de prévention autour des consignes à respecter quand on prend son véhicule en partant en vacances, justement.
Et pour les personnes, Alain Soudan, qui prennent les vélos, par exemple, et qui mettent un porte-vélo sur la voiture ou sur le camping-car, quels conseils peut-on donner ?
Alors pour le porte-vélo, bien sûr qu'il soit bien fixé au véhicule. Contrôler que la plaque soit visible, que les feux soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, on peut faire un rappel sur le porte-vélo. Souvent, on peut mettre une plaque auxiliaire, notamment ces plaques rouges qu'on peut maintenant acheter avec le même numéro que le véhicule, qu'on peut rajouter sur le porte-vélo. Et ce qui est important, c'est vraiment après l'arrimage du vélo, qu'il soit vraiment bien fixé. Et puis, pas hésiter chaque fois qu'on fait une pause de contrôler que l'arrimage soit bien, que le vélo soit toujours là, si possible. Et puis, qu'il soit bien arrimé, puis bien contrôlé, que tout soit en ordre.
Et ça me fait sourire quand vous parlez de ça. Et il faut aussi faire attention si vous passez sous un tunnel, si la hauteur est indiquée, de faire attention que tout passe. Parce que ça, on a vécu en partant en vacances du côté de Viasplage. Il y avait devant nous un bus allemand. Alors, il était assez haut. En plus, ils avaient mis des planches à voile. Il fallait passer sous un petit pont. Ils sont arrivés et schlac. Heureusement, nous, on s'est douté parce qu'on s'est dit là, ça ne va pas passer.
Ça va couper, Odile, oui.
Alors là, on est resté vraiment
une distance
de sécurité. Tout est à basculer. Voilà pour la petite anecdote.
Quand on met quelque chose sur le toit, il faut effectivement faire attention à la hauteur du véhicule qui est plus haute que d'habitude puisqu'il y a du matériel sur le toit.
Ouais. Moi, c'est un conseil que me donnait mon papa quand il m'apprenait à conduire. Il me disait tout le temps, et je l'ai toujours appliqué et transmis, si vous suivez un véhicule qui a un chargement qui est visiblement pas relié au véhicule, c'est toujours bon de le doubler si on en a la possibilité en sécurité, si on est sur l'autoroute ou même une voie express, ou de garder vraiment une distance beaucoup plus accrue si jamais le problème se posait. Et puis la hauteur, je vous confirme, j'ai un groupe de musique à mes heures perdues, on avait loué un véhicule qui n'était évidemment pas le nôtre pour aller faire une date au Havre, et on a suivi un tunnel, et le tunnel faisait 2,04 m, c'est à la sortie de Paris en direction de Rouen, donc 2,04 m c'est moins haut qu'un parking souterrain hein, pour donner l'échelle, et notre véhicule faisait 2,02 m, et j'ai eu pendant 12 km la sensation de me faire décapiter à chaque fois qu'il y avait un panneau de signalisation qui arrivait. C'est passé tout juste, mais effectivement, il est bon de temps de rappeler que quand on a même simplement les galeries pour accueillir, on gagne quelques centimètres, des fois ça peut être chaud, ouais.
Et avec un vélo sur le toit, c'est pas bien d'aller dans un parking.
Mais là, c'est ça mieux peut pas. Calmer, ouais.
Et puis, est-ce quand on a quelque chose qui dépasse d'une remorque, par exemple, c'est important de mettre un petit signal?
Alors, si ça dépasse de plus d'1,50 m, il faut effectivement le signaler avec un triangle ou quelque chose de visible derrière le véhicule.
Envie de prendre l'air jusqu'à midi, c'est l'air de jeu.
Oui, vous voyez ce que j'ai dans les mains là, hein, c'est... Oui, c'est du métal. On est toujours avec notre invité, le capitaine Alain Saudan, qui est donc le chef de la police de la circulation à la police de Neuchâtel. Et on va aborder maintenant le thème du kit, enfin tout ce qu'on devrait avoir dans la voiture. Et c'est quoi le plus... Enfin, tous ces objets sont vraiment importants, mais lequel ne faut-il surtout pas oublier?
Alors, on peut déjà commencer par le triangle de panne. Donc, le triangle de panne, deux choses... La première chose, déjà, savoir où il est dans le véhicule.
Oui.
Parce que quand on est en panne ou qu'on a eu un accident et qu'on doit le chercher, c'est toujours un stress supplémentaire si on ne sait pas exactement où il est. Donc juste avant de partir, déjà savoir où il est. Et puis la deuxième chose, c'est d'essayer de le mettre, de le défaire et puis de pouvoir le mettre en place.
Ce que Claire est en train de faire,
c'est ce que je vais essayer de faire.
Moi, j'ai essayé hier au soir dans ma maison de le mettre en place. Ben, j'ai galéré un petit peu.
Alors.
Donc c'est quand même bien de le mettre une fois en place pour voir comment ça fonctionne. Le défi de Claire, c'est de le mettre en place.
Voilà. Est-ce que j'ai réalisé le défi?
Alors là, je pense qu'il y a un problème, parce que je ne sais pas comment il va tenir.
Ah oui,
donc,
c'est
donc il manque encore quelque chose, et c'est ça le plus gros défi.
Ah oui. Ah, attendez, je sors une baguette. J'espère que je ne vais pas casser votre triangle de panne, là.
J'espère.
Alors là, maintenant. Ah ouais. Mais c'est pas évident de votre truc, on se pète les ongles.
D'où, une fois le sortir de son étui, le mettre en place.
Vous voyez, chers auditeurs, c'est pas gagné.
Prochain défi pour Claire, changer un pneu.
Ouh, alors ça, c'est encore pire.
Bon, déjà contrôler la pression.
Bon, ouais. Voilà, écoutez, j'abdique, je suis pas très patiente. On regardera ça une autre fois. Donc, le triangle de panne, ça, c'est fait. Le gilet jaune.
Alors, le gilet jaune, il est souvent obligatoire pour le conducteur. Nous, au niveau police, on conseille d'avoir un gilet jaune par passager. Pourquoi? Parce que c'est une question de visibilité. Si on doit sortir du véhicule sur une route où on roule à des vitesses assez importantes.
Oui, sur l'autoroute, par exemple.
C'est important d'être visible. Et puis, le gilet rend quand même une plus grande visibilité des passagers. Donc, prenez-en un pour chaque passager, c'est le mieux.
Et puis, alors, le fameux CH. Alors, moi, je suis...
Alors, le fameux CH. Donc, en préparant cette émission, j'ai regardé mon véhicule, j'ai vu qu'il n'avait pas de CH.
Moi non
plus. Ça fait 4 ans que je l'ai, que je vais à l'étranger, je ne l'ai pas. Je ne montre pas le bon exemple, je dois dire ici. Donc, j'ai profité de cette émission pour aller en acheter un. Puis, effectivement, si vous allez à l'étranger, il est obligatoire. Donc, c'est sur les réglementations suisses qui obligent un véhicule suisse qui va à l'étranger de porter ce CH.
Mais ça serait tellement plus simple d'avoir, comme les autres pays européens, sur la plaque directement, hein, bref, France, Italie,
alors, Claire,
enfin voilà.
Avant-gardiste, puisque effectivement, l'Offroad est en train de plancher sur une nouvelle immatriculation pour les véhicules suisses, qui sont en train de réfléchir à cette nouvelle immatriculation, et ils vont effectivement mettre le CH sur la plaque d'immatriculation, et il n'y aura plus besoin de ce CH. Alors ce CH, pour certaines personnes qui aiment bien leur véhicule, ça dénature un petit peu l'arrière du véhicule. Mais il y a aussi possibilité d'acheter ces CH aimantés qu'on peut simplement mettre quand on va à l'étranger puis le renlever quand on revient en Suisse.
C'était une question esthétique que j'allais vous poser. On trouve parfois dans le commerce ou sur Internet des CH où les lettres sont détourées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le rond blanc que les auditeurs peuvent voir tout de suite là sur la photo du kit qu'on vous met en direct. Ça veut dire que si on utilise un sticker où il y a simplement les lettres CH qui sont dans une couleur autre que celle du véhicule pour qu'il y ait quand même un contraste, c'est OK du moment qu'il y a les deux lettres, passe, ou il y a quand même une norme à respecter?
Malheureusement, il y a une norme, et la norme, c'est celle que vous avez sur le véhicule, c'est celle qui a été homologuée pour mettre sur le véhicule.
Donc, je ne pourrais pas mettre un CH rose sur ma voiture?
Alors, vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas homologué.
C'est amendable.
Mais peut-être qu'un gentil policier, vous voyant avec ça, sourira et vous laissera passer.
Ensuite, trousse de secours, est-ce que c'est vraiment obligatoire ou c'est plutôt conseillé?
Alors, de nouveau, dans certains pays européens, c'est obligatoire. Et nous, au niveau police, pour éviter de savoir si c'est obligatoire ou pas, on vous conseille de l'avoir. Ça peut toujours être important si vous arrivez sur un lieu d'accident ou si vous arrive quelque chose dans le véhicule, de pouvoir avoir les premiers accessoires de secours avec vous.
Et qu'est-ce qu'elle doit contenir, cette trousse?
Alors, tout ce qui est de premier secours, c'est-à-dire des pansements, des bandages, des possibilités de désinfecter, des couvertures aussi de secours qu'on peut mettre sur les personnes. Il n'y a pas réellement une obligation d'avoir quoi que ce soit comme matériel, mais en principe, quand on achète une trousse de secours comme ça, on a tout ce matériel dedans.
Et puis, il y a le... Je vois juste pas.
Oui.
Voilà. Ce petit carnet bleu, c'est quoi ça?
Alors, c'est en cas de petits soucis, de petits accidents. C'est un constat européen pour les accidents qu'on peut remplir sans devoir appeler la police. Si c'est un petit accrochage, c'est toujours bien de l'avoir dans le véhicule.
Et si on se fait amender dans un autre pays que la Suisse, comment ça se passe au point de vue justement de ces amendes?
Alors ça dépend, si le policier vous donne directement l'amende, voilà, vous avez l'amende avec la possibilité de le payer tout de suite ou de payer plus tard. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une amende que vous allez prendre dans un pays étranger, si vous ne la payez pas, le jour où vous retournez, vous risquez d'être arrêté puis d'être ennuyé parce que vous n'avez pas payé cette amende. Donc,
nous,
au niveau police, on conseille quand même que si vous avez une amende et puis qu'elle est justifiée, de la payer pour éviter un souci lorsqu'on retourne une fois dans ce pays.
C'est particulièrement criant aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, même s'il n'y a pas forcément besoin d'un visa pour rentrer sur le territoire, il y a un formulaire qui s'appelle le formulaire ETSA qui est à remplir sur Internet. Et si jamais vous avez eu une amende que vous n'avez pas payée aux États-Unis, c'est un motif suffisant pour vous refuser l'entrée sur le territoire.
Oula, donc, ça rigole pas, hein.
Sachez-le, les Américains ne rigolent pas avec un stationnement. Voilà, puis souvent, on a des véhicules de location, puisque c'est quand même compliqué d'aller aux États-Unis avec sa voiture, sauf si on prend un ferry, ce qui ferait un long voyage. Donc, c'est votre loueur de véhicule qui, de toute façon, vous dénonce. Ça m'est arrivé. J'ai pris une amende.
Voilà, vous en parlez en connaissance de cause.
En connaissance de cause. Et effectivement, le loueur s'est rappelé à nos bons souvenirs pour payer les $50. Voilà.
Il y a aussi les excès de vitesse. Donc, même à l'étranger, un excès de vitesse peut avoir des conséquences en Suisse, puisque les pays peuvent nous transmettre les documents en Suisse, et puis il peut y avoir des conséquences aussi en Suisse, avec éventuellement un retrait de permis, donc c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on peut faire des excès de vitesse.
Que l'impunité règne. Autre exemple de ma vie d'automobiliste fou, je roule régulièrement en Allemagne pour aller voir des festivals. Eh bien, les autoroutes, quoi qu'on en dise, elles ne sont pas toutes illimitées, il y a beaucoup de tronçons qui le sont, donc j'ai réussi à me faire flasher à 120 pour 100 à l'entrée de Francfort, ce qui m'a valu une amende de 10 euros, donc c'est un peu moins cher quand même en Allemagne
qu'en Suisse.
Ouais.
Je crois qu'on va bien pouvoir discuter après l'émission. <les deux.
rire> J'ai une question, est-ce que vous êtes déjà fait flasher, vous?
Joker.
Voilà,
mais
Joker.
Non, je pense que je suis un automobiliste normal, puis bien sûr, j'ai déjà eu des amendes de vitesse, oui.
Parce voilà. Que lors des dernières élections...
Pour l'instant, jamais de retrait de permis, donc ça reste sur l'amende d'ordre.
Okay. Et vous, Claire. Alors.
Joker. Les policiers, ils font fortune avec moi. Non, mais je plaisante.
Il me semble que j'ai déjà vu son nom, quelque part.
Oui, un petit peu des excès de vitesse.
Lors des dernières élections cantonales, j'ai trouvé une vidéo sur Facebook où le PLR a interrogé ses candidats sur leur irréprochabilité. Et puis, je crois qu'Alain Ribaud a témoigné du fait qu'il s'est fait attraper une fois par la grosse Bertha, quand même. Hein. Même lui, ça lui arrive.
Et oui, mais personne n'est infaillible.
Envie de prendre l'air, l'air de jeu.
Nous avons la personne qui a remporté le défi, c'est Laurent qui habite à Constantine et c'est à côté d'Avenches. Nous avons le plaisir de vous accueillir et surtout on va découvrir votre photo qui a beaucoup plu à notre invité Alain Soudan. Alors vous pouvez nous décrire votre photo, Laurent?
Oui, alors c'était pris depuis le Rotor, donc en face du Cervin, sur une terrasse. Une personne tient le pied du verre et puis je prends la photo. Et puis, pour la petite histoire dedans, c'est de la petite Arvine. Soyons sérieux.
Alain, ça a été difficile hein, de choisir, parce que vraiment, les gens nous ont envoyé des magnifiques photos. Celle-ci était assez originale.
Oui, c'était pas évident de choisir, mais c'est vrai que l'originalité de cette photo, elle est assez impressionnante, puisqu'on arrive même à voir le Cervin dans le pied du verre, et aussi dans le liquide. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu.
Eh bien, bravo. Vous remportez une carte cadeau Landy de 20 francs. Et puis, ben, on vous souhaite tout de bon, un
merci
bon dimanche.
Beaucoup.
Et puis,
merci,
vacances pour vous, vous allez partir?
Je ne connais plus le terme vacances, c'est quoi déjà? Oui, en septembre.
D'accord.
En septembre, ouais.
Ok, et vous avez déjà
et
votre...
Et on part aux îles Canaries.
Ah oui, alors donc ça sera avion.
Exact.
Voilà. Eh bien, merci d'avoir joué avec nous. On vous souhaite
merci
une bonne suite de dimanche. Et puis, ben, bel été à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir, merci.
Pour terminer cette émission, mon cher Alain, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Est-ce qu'il y a peut-être des recommandations encore que l'on peut donner aux personnes qui nous écoutent?
Alors, ce qu'on peut encore dire, c'est au niveau de l'ambiance dans le véhicule. C'est toujours bien d'avoir une bonne ambiance dans le véhicule pour déstresser le conducteur. Donc, que les passagers aient une sorte de jeu pour distraire un petit peu les passagers, pas le conducteur bien sûr, mais ça peut... Plus l'ambiance est bonne dans le véhicule, mieux c'est aussi pour le conducteur.
Ah oui, il se sent moins stressé, on va dire.
Oui.
Après, on peut écouter de la musique aussi.
Aussi, ou faire des blind tests.
Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Ou faire des petits jeux comme ça.
On peut aussi écouter Claire faire des tonneaux.
Ça aussi,
je crois que c'est quand même le moment de faire partager à nos auditrices et nos auditeurs les aventures de Claire au scan il y a 2 semaines. Écoutez-moi ça.
Attention.
Claire qui passe la vue des Alpes, il y a la neige, ça glisse.
Pardon, aïe, aïe, aïe. Oh nom de Dieu.
Alors là, elle est en train de tourner sur elle-même, la voiture, elle fait quelques tonneaux.
Oh là 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 là. Ah, il y a tout qui...
Ah, alors ça va Claire, vous êtes survivante?
Ouf.
Racontez-nous les sensations.
Bon, ça va.
Quand ça sort du cœur, c'est totalement incontrôlable. Pareil.
C'était Raphaël qui vous a pas raté cette fois-ci en compagnie de Florian qui commentait en direct vos loopings dans la voiture en direct du scan.
Ouais, c'était vraiment impressionnant et ça montre bien là aussi de respecter et de mettre sa ceinture de sécurité. C'est aussi primordial.
Oui, mais j'ai eu l'honneur de vivre ça avec vous.
Mais alors, oui, vous, on ne vous a pas entendu. Vous êtes habitué, vous avez.
Gère mon stress.
En tout cas, on vous remercie infiniment, Alain, d'avoir participé à l'ère de jeu. C'était un bonheur de vous recevoir. Et puis, merci pour tous les précieux conseils que vous avez donnés. On vous souhaite un bel été. Vacances, pas vacances?
Oui, pour moi, j'aurai des vacances en Valais. Pour commencer.
Ah ben c'est cool. Alors, faites bien attention.
Et bonheur partagé. J'ai eu beaucoup de plaisir à être dans cette émission. Et puis, j'espère que mes conseils auront donné aux automobilistes la possibilité de partir en sécurité.